Alors, j'ai demandé à Alexandre de venir à l'avant. Alexandre va nous présenter un projet qu'on amène devant l'Église. Pour les prochaines semaines, jusqu'à l'Action de grâce, on entre dans un mois où chaque dimanche, il va y avoir un accent particulier, merci, qui va être placé sur la mission. Et donc, la semaine prochaine, on va avoir la visite des Baskounans. Ce matin, on a Mélo qui est ici avec nous. On va aller dans un passage dans les Actes qui nous parle de mission. Et donc, on va parler passablement de mission pour les 4 prochaines semaines. Et donc, on a un projet en lien avec ça, comme on a un projet à chaque année à l'Action de grâce. Puis, je vais laisser Alexandre vous en parler.
Alors, bonjour à tous. C'est un privilège, encore une fois, cette année, de réfléchir à la mission, comment on peut contribuer à la mission partout dans le monde et près de nous aussi, à travers l'offrande d'Action de grâce. Et cette année, on va avoir une offrande d'Action de grâce qui va être prélevée pendant tout le mois d'octobre. Et spécialement la fin de semaine de l'Action de grâce. Et puis, on a 3 projets particuliers qu'on place devant vous. 3 projets pour un objectif de 9 000 $ répartis également en ces 3 projets-là. Et puis, on va venir vous parler un peu plus en détail et vous présenter chacun de ces projets-là, mais simplement vous mentionner qu'à travers le projet d'offrande d'Action de grâce, on veut soutenir l'implantation d'églises au Canada à travers notre fellowship, notre association d'églises, qui a plusieurs projets d'implantation d'églises dans le but d'amener l'Évangile dans des régions du Canada et même du Québec. Et on veut participer à ce projet-là. Ensuite de ça, il y a la fête de Noël avec Bouffe pour tous qu'on a eu l'année dernière et qu'on veut répéter cette année. Un autre 3 000 $ qui va être affecté à ça. Et ensuite de ça, le projet de bâtiment de SEMBEC, notre séminaire de notre association et pour les bureaux de notre association. C'est un investissement dans la formation d'ouvriers, même si c'est un bâtiment. On cherche à s'investir dans la formation d'ouvriers au Québec. Et puis, on veut attribuer un 3 000 $ pour cela aussi cette année. Mais comme je disais, on va vous revenir avec chacun de ces projets-là présentés plus en détail, mais qu'on puisse en Église participer ensemble à cette offrande spéciale-là afin de participer ensemble dans la mission et dans la proclamation de l'Évangile. Je vais maintenant inviter Mélodie Francis qui est avec nous. Mélodie, OK, t'es là, tu t'en viens. Mélodie est avec nous ce matin. Mélodie est missionnaire au Honduras depuis 6 ans, je pense. Oui, c'est ça, depuis 6 ans, travaille dans un orphelinat auprès des enfants. Et puis ce matin, elle est ici pour nous présenter un petit peu son projet, nous donner un petit compte-rendu. Et c'est un plaisir pour nous de t'accueillir, Mélodie, ce matin.
Bonjour, ça fait plaisir d'être ici. Alors, comme Alex a dit, ça fait maintenant 6 ans que je suis missionnaire au Honduras. Pour ceux qui ne me connaissent pas beaucoup, je travaille dans un orphelinat qui s'appelle Vida y Libertad, donc Vie et Liberté. C'est pas vraiment un orphelinat par contre. Nous, en espagnol, on appelle ça Casa Hogar, ça veut dire maison-foyer. Puis en fait, je le décrirais plus comme une très grande famille dysfonctionnelle. Parce que on a 42 enfants, donc puis j'ai 27 ans. la plus jeune fille, c'est un petit bébé qui a maintenant 11 mois, puis la plus vieille, elle a 21 ans. Alors, c'est des garçons et des filles de tous les âges. C'est des enfants qui sont avec nous parce qu'ils viennent de situations très difficiles. Ils ont soit été abandonnés, soit qu'ils ont même été exploités dans la rue, ou qu'ils viennent de toutes sortes de situations toutes les sortes d'abus que vous pouvez imaginer. Donc, on a aussi des enfants qui viennent puis ils sont en état d'extrême malnutrition. Alors, les enfants qui arrivent à la maison, ils arrivent très... en bon québécois, on dirait « poqué ». Mais l'histoire s'arrête pas là. Je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on fait. Je vais vous montrer une vidéo qui parle un peu de Vida y Libertad, ce qu'on fait, c'est quoi notre vision, c'est quoi nos projets? Vous allez connaître un petit peu les enfants aussi. Donc, on va montrer une vidéo. Il fonctionne-t-il ou? Il n'est pas là. Mais on va faire une petite danse folklorique du Honduras. mais je vais continuer à parler de toute façon. En fait, je vous parle un petit peu de ce qu'on fait à la maison entre-temps. Je vous ai dit qu'on était une famille un peu, alors le fonctionnement de la maison, il paraît comme chez vous, pour ceux qui vous demandiez, sauf qu'avec 42 enfants. Alors, on se lève le matin, à 5h du matin, on prépare les enfants pour aller à l'école. L'autobus vient les chercher vers 6h et quelques, puis on va continuer l'histoire plus tard. Au Honduras, plus de 50 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de maladies reliées à la malnutrition. Selon Oxfam, plus de 8 000 enfants trouvent une maison dans la rue. Leur alternative, la prostitution, la drogue, la mendiance ou une mort précoce sous les balles de la haine. Heureusement pour quelques-uns d'entre eux, certains organismes offrent une autre alternative. Bienvenue à la Casa Hogar Vida y Libertad. Située dans les montagnes de Sihuatepeque, Vida y Libertad est un endroit où les enfants trouvent la sécurité, une famille, la dignité, une joie de vivre, un futur rempli de possibilités constructives et surtout ce qu'ils ont plus besoin, l'amour. Une des choses qui distingue la maison d'une orphelinat classique, c'est l'ambiance familiale, la chaleur humaine et la proximité. Y llevaba también. Dile que quiero. También trabajamos con las familias. On travaille aussi avec les familles pour chercher leur restauration. Y llevaba también. Grâce au soutien de différents donateurs et parrains, nous pouvons offrir aux enfants une bonne scolarisation, une assistance médicale et une formation morale et spirituelle. Vida y Libertad ne s'arrête pas là. Une implication sociale à l'extérieur des murs permet aux enfants d'apprendre à donner à leur tour et donc d'aimer en accomplissant un changement concret qui est à la portée de chacun. En plus d'être formateurs, ces actions constructives rappellent à ces beaux petits trésors qui sont des aides privilégiées dans le cycle de l'entraide. Malheureusement pour tous, Vida y Libertad est limitée dans sa capacité, mais ne s'arrête pas là. Ne pouvant héberger plus d'enfants sous leur toit, Vida y Libertad a pris en main l'éducation de plus de 180 enfants qui ont maintenant les outils nécessaires pour s'épanouir et donc avoir droit à un meilleur futur.
Estos niños tienen ahora las herramientas necesarias para realizarse y tener el derecho a un futuro mejor. Cuando la generosidad de los donadores.
Lorsque la générosité des donateurs abonde, Vida y Libertad partage les réserves de nourriture et de vêtements avec d'autres organismes dans le besoin. On a acquis une propriété dans la ville de Sihuatepeque qui compte un terrain de 3 hectares avec une maison, un terrain qui inclut une flore d'arbres fruitiers, des jardins, quelques plantes de café et plus encore. La vision de Vida y Libertad inclut la construction de plusieurs maisons, une clinique médicale et dentaire,
un kinder,
une école maternelle,
un centre de récréation,
un centre récréatif
et un projet d'agriculture
qui procurait la nourriture et qui instruirait les enfants dans les techniques agropécuaires. Tu peux faire partie de l'équipe Vida y Libertad en t'engageant financièrement, personnellement ou avec des heures de travail. Il y a de l'espoir pour nos enfants et tu peux faire partie de la solution. Ensemble, nous pouvons faire sourire un grand nombre d'enfants. Avec ce nouveau terrain, nous pourrons aider plus d'enfants dans le besoin, améliorer leurs conditions de vie et pouvoir une ambiance plus saine pour les enfants du programme. Merci. Alors, ils sont beaux les enfants! On dit souvent qu'on dirait que les critères pour que les enfants soient à la maison, c'est qu'il faut qu'ils soient cute. Mais c'est pas vrai. Alors, j'aimerais ça vous parler de chacun, mais on manque de temps, c'est sûr. Je vais vous parler d'un de mes petits qui est arrivé récemment à la maison. C'est pas lui. C'est lui. Ça, c'est Christiane. Ses yeux, ils deviennent encore plus grands que ça. Ça, c'est assez normal. Mais Christiane est arrivée à la maison, ça fait plus d'un an et demi. C'était en février de l'année passée. On est allé le chercher dans un... C'est comme un orphelinat qui est géré par l'État. Il y avait un mois et demi. Il était tout petit. C'était pratiquement un nouveau-né. Il était tellement mal nourri qu'il y avait même pas le poids encore d'un enfant qui venait de naître. Alors, au début, on était vraiment pas sûr qu'est-ce qu'on fait, physiquement parlant, ça veut dire beaucoup d'heures de pas dormir, ben vous savez. Puis on n'était pas sûr, mais Tina, la directrice de l'orphelinat, puis moi, on en a parlé, on s'est dit ben regarde, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, puis on va gérer la situation rendue là. Alors on est allé, on a connu Christiane, puis comme vous pouvez voir, ben sur le coup, on est reparti avec. On me l'a mis dans les bras, puis on n'a pas été capable de le redonner à la personne qui était responsable de lui. Christiane, c'est vraiment un cadeau de Dieu. On venait de perdre un enfant, en fait, dans ces temps-là, quelques mois avant, puis ça a été un coup vraiment dur. Je sais qu'il y a des gens ici qui étaient au courant, il y en a que non, mais en fait, c'était une grosse, grosse épreuve pour toutes nous autres, même pour les enfants de la maison. Puis le fait de voir Dieu agir dans la vie de Christiane, pour moi, ça a été comme un petit... une alléviation, finalement, de la douleur. Ça a pu m'ouvrir les yeux de voir que oui, Dieu est là, oui, Dieu est bon, même si on ne comprend pas toujours qu'est-ce qu'il fait, mais il est réel. Puis à chaque jour, il nous le montre. Dans la vie de chacun des enfants qu'on prend soin, finalement. Christiane, vous voyez, est arrivée chez nous dans un état déplorable de santé. On n'était pas sûr, en fait, qu'il allait tenir le coup. Puis, à cause de la malnutrition, ses conditions étaient allergiques à toute forme de lait, puis il est en train de se faire donner du lait dilué dans l'eau avec du sucre. Alors, vous pouvez imaginer la quantité de problèmes que ça peut faire à un enfant. Puis, sa peau, c'était comme des écailles de poisson, était vraiment pas bien. Finalement, on a appris plus tard que la maman de Christiane, c'est une femme de la rue avec des problèmes de santé mentale qui faisait la rue à San Pedro Sula avec Christiane dans un sac en plastique, comme un sac d'épicerie, tout nu, dans une ville super chaude. Christiane y a passé probablement les premières 4 semaines de sa vie couverte de ses excréments dans un sac en plastique. Alors, vous pouvez comprendre que ce petit gars-là, pour moi, c'est un miracle. Je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je parle de lui. En fait, il n'est pas encore assez vieux pour comprendre que c'est pas moi sa maman. Je sais pas pourquoi il m'a choisi, mais il m'appelle Nana. Puis c'est difficile d'être loin de lui. J'ai hâte de le revoir. Puis, juste pour vous dire, c'est tellement beau de voir les miracles que Dieu il fait dans la vie des enfants à chaque jour, de voir d'où ce qui viennent ces petits-là. Christiane, c'est un des enfants, mais il y en a 41 autres qui viennent de situations qui, des fois, juste d'en parler, ça m'enrage, ça me fait mal. Mais les voir grandir, les voir être capables d'aimer, les voir être capables de recevoir l'amour de Dieu, puis de vraiment commencer à comprendre l'idée que, oui, ils ont un père. Ils n'ont pas un père sur la terre, mais ils ont un père quand même qui prend soin d'eux, puis qui est au-dessus des circonstances. Les enfants, là, le soir, ils prient. Puis, parce que tous les soirs, on a un temps de comme de devotions en famille. Le soir, ils prient, puis malgré tout ce qu'ils ont vécu, ils font entière confiance à Dieu qui va nous protéger. Ils demandent à Dieu de mettre des anges autour de la maison. Mais c'est quelque chose de tellement réel. Nous, des fois, on demande la protection de Dieu, mais on se dit, bien, j'espère qu'il va nous protéger, un petit peu subconsciemment. Mais les enfants, non, c'est vrai pour eux. C'est vrai que Dieu est au contrôle de leur vie. Alors, j'ai plein de choses à vous raconter, mais je vais m'arrêter là. Je vais être en arrière après, si vous voulez qu'on jase un peu. Je vais juste vous laisser avec quelques requêtes de prière, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui prient pour moi. La première, prier pour la sécurité. On a eu beaucoup de problèmes depuis que je suis là, dans les derniers 6 ans, mais dernièrement aussi, moi et d'autres gens, on s'est fait hold-upper plus qu'une reprise. C'est-à-dire, avoir un fusil dans ton visage, c'est pas agréable du tout. C'est sûr que je suis ici pour le raconter, alors il y a rien de grave qui m'est arrivé. Mais priez toujours pour notre sécurité, parce qu'on est souvent exposé au danger là-bas. Un petit peu avant que je vienne au Québec, il y a eu des gens qui sont entrés sur le terrain, 5 hommes en fait. Le soir, ils criaient aux filles de sortir. Ils savaient qu'on avait des adolescentes à la maison. Ils sont mis à lancer des choses aux fenêtres. Alors, vous pouvez imaginer le contexte un peu d'anxiété qu'il y avait. Heureusement, Dieu il pourvoit déjà. Il y a une église en Alberta qui est en train de financer la construction d'un mur de sécurité autour de la propriété. Alors, ça va être le fun une fois que ce soit construit. Puis, la sécurité principalement. Puis la deuxième chose, c'est prier pour le moral. Comme je vous ai dit, on a traversé des temps très, très difficiles, des temps, je dirais, de crise. Mais Dieu a été bon. Je m'accroche souvent sur le fait que je sais, 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 que Dieu est bon. Puis, on a beaucoup besoin de prière. Des fois, c'est difficile. Des fois, on ne comprend pas. C'est un super beau travail. C'est un privilège d'être là. Mais il y a des moments que le découragement est très présent. Même quand je reviens au Québec, des fois, je fais face à une autre réalité complètement. Des fois, on fait face à l'indifférence. Puis, des fois, ça peut être blessant. Mais en même temps, je comprends parce qu'on n'est pas exposé aux mêmes réalités. Mais c'est le fait de pouvoir accepter puis pouvoir continuer à partager ce que Dieu fait là-bas, ce que... Finalement, ce qui est réel, c'est que Dieu est bon. Alors, merci beaucoup pour votre temps. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici encore.
Je peux prier pour toi. Je peux prier pour toi. Tu veux-tu juste nous dire, tes parents, ils sont où? Ils sont-tu proches? Parce que je lis aussi John,
oui,
tout ça.
Oui, puis... Mes parents sont au Honduras. Mon père, il s'occupe, c'est comme un séminaire un petit peu semblable à Sembec, mais version espagnole. Puis ça fait partie de l'Amérique centrale, donc il fait de la formation de pasteurs là-bas. Puis ils se sont installés dans la ville qui est à Siguatepeque, c'est à 6 kilomètres de la maison. Alors ils font un petit peu le rôle de grands-parents maintenant pour les petits.
Ah, c'est super. On prie tout de suite, okay? Éternel notre Dieu, je veux te bénir pour ce que tu as placé sur le cœur de Mélodie, Seigneur, il y a plusieurs années. Merci, Père, pour cette passion pour les enfants qui, malgré les défis, malgré les difficultés, malgré les limites, malgré la souffrance qui reste quand même toujours visible partout dans cette ville, dans ce pays, Seigneur, et chaque fois qu'il y a un enfant qui arrive, tu gardes cette passion vivante dans son cœur, Seigneur, et je te bénis pour ça. Père, c'est toi qui places des choses comme ça sur nos cœurs afin que de nous amener à nous donner, à nous oublier nous-mêmes, Seigneur. Père, je te prie pour le ministère là-bas. Je te prie de les fortifier, les encourager, les aider, Seigneur, à garder les yeux fixés sur toi devant tous les obstacles, les protéger physiquement, Seigneur. Protéger physiquement pour voyant aux besoins, mais les protéger aussi de cette violence qui est omniprésente là-bas, Seigneur. Père, merci pour cette grâce que tu fais à quelques orphelins, de les amener dans cette maison, de leur offrir un endroit, un contexte favorable, Seigneur, pour qu'ils puissent simplement devenir tout ce que tu les appelles à devenir, Seigneur, s'épanouir et par ta grâce te connaître. Je te prie, Père, de fortifier Mélodie, de bénir le ministère de John et de Lise là-bas aussi, que ça puisse être un encouragement constant pour juste pour Mélo puis pour toute l'équipe là-bas. Merci, Seigneur, d'être fidèle et puisses-tu continuer à sauver des enfants de la rue comme ça, leur donner un contexte où ils sont aimés et où ils vont pouvoir reconnaître qu'il y a un bon Père malgré les années de souffrance que comporte déjà leur vie, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que je te prie, Père. Amen. Amen. Merci, Mélo. Merci. OK. On va revenir dans notre réalité qui est pas mal plus confortable, n'est-ce pas? Mais j'aime ça aussi. Le projet des frérots avec Timothée, tout ça, c'est génial. J'ai hâte d'avoir plus de nouvelles. Tournez avec moi dans Actes, s'il vous plaît. On va aller dans le livre des Actes, au chapitre 13. Ce matin, je vais être un petit peu plus bref, croyez-le ou non. Hey, ce matin, j'ai décidé d'être créatif. D'habitude, j'ai 3 points. Ce matin, j'ai pas 3 points. J'ai 3 questions. Non, je me suis dit, tu sais, comme ça. J'avais un petit goût d'être créatif. On va l'ensemble dans un mot de prière avant de lire la parole de Dieu. C'est bon? Bien, Père éternel, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, encore une fois pour ce que tu as placé sur le cœur de Mélodie et de toutes les gens qui s'impliquent là-bas, ce que tu as placé, Seigneur, sur le cœur de Jean-Sébastien, de Caroline, d'aller chercher ce petit Timothée, de l'amener chez eux et de l'intégrer dans leur famille, Seigneur, et qu'il soit véritablement leur enfant et qu'il puisse, par ta grâce, devenir, Seigneur, ton enfant chéri, qu'il puisse te connaître et savoir que malgré cette histoire de souffrance, malgré ce monde où la souffrance est omniprésente, Dieu existe et Dieu est bon et Dieu veut faire du bien. Merci Seigneur pour toutes les personnes partout sur la terre, ici au Québec et ailleurs, Seigneur, qui répondent à ces appels que tu places sur leur cœur, de s'oublier eux-mêmes pour se donner en ton nom, Seigneur, et aller servir au nom de Christ, aller faire connaître l'amour de Dieu dans un monde qui en a tellement besoin, Seigneur. Père, je veux te demander de bénir ce mois, ces prochaines semaines, nous allons parler de mission. Et je te demande, Père, de bénir ce temps dans ta parole ce matin. Je sais, Père, que nous sommes tous à des endroits différents. Dans cette salle, nos cœurs peuvent être préoccupés par tellement d'autres choses que la mission, Seigneur, parce qu'il se passe des choses dans notre vie, parce qu'il se passe des choses dans notre maison, parce que peut-être on n'est pas rendu là dans notre compréhension de ce que tu as fait. Et je te prie, Père, ce matin, de venir te servir de ce court temps dans ta parole pour venir éclairer nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions saisir à quel point tu as à cœur le salut des hommes et le rôle que nous sommes appelés à jouer dans un tel projet, Seigneur, comme Église locale et comme individu. Merci, Père, pour ta parole. Merci pour ton esprit. Seigneur, par ta grâce, je te prie de faire en sorte que ce moment où nous prenons pour méditer, pour voir ce que ce passage implique pour nous, soit plus qu'un temps de réflexion, Seigneur, que cela produise en nous un désir, une passion de passer à l'action, Seigneur, en ton nom et de nous investir pour l'avancement de ton œuvre afin de faire connaître ton nom, Seigneur, Seigneur Jésus, aux hommes autour de nous et jusqu'aux extrémités de la terre. Remplis-moi de ton esprit, Père, tu sais que j'ai besoin de ta grâce. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que je te le demande. Amen. Amen. Acte 13, les versets 1 à 5. Alors, c'est vraiment on est dans le livre des Actes depuis quelques mois. On a eu la pause de l'été. Ce matin, je m'en vais dans les Actes. Puis, la semaine prochaine, c'est Antonio qui va apporter le message de la parole. C'est comme, on fait vraiment une saucette dans le livre des Actes. Mais en même temps, on entre dans une phase. Le livre des Actes arrive dans une phase missionnaire très, très intensive. Et vraiment, j'étais convaincu de prendre ce passage ce matin, même si ça veut dire que ça ne sera pas nécessairement suivi la semaine prochaine, d'accord? Acte 13, les versets 1 à 5. On va lire la parole de Dieu. « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. On arrive dans une nouvelle partie du livre des Actes. On arrive vraiment dans une nouvelle section. Si on avait un personnage principal à identifier avant une personne humaine, bien c'était l'apôtre Pierre. Pierre, jusque-là, est comme le personnage principal du livre des Actes. Et lorsqu'on arrive dans cette partie-ci du livre, bien très rapidement, l'apôtre Paul va devenir le personnage principal. Maintenant, Paul avait un appel particulier sur sa vie. Il était appelé à aller vers les païens. Et donc, on entre dans une phase missionnaire, comme on l'entend généralement aujourd'hui. C'est-à-dire que la mission va sortir d'un contexte local. On sait déjà que l'Évangile a été ouvert au nom juifs. On a déjà vu ça jusqu'à présent dans les Actes. Maintenant, l'Église va passer à l'action et va commencer à prendre cette direction pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, annoncer l'Évangile, implanter des églises. Et c'est dans cette nouvelle phase que nous commençons. Luc a décidé de nous donner un échantillon. D'accord? Lorsqu'on lit les Actes, lorsqu'on lit ça rapidement, on peut comme avoir l'impression qu'on a un portrait, on a une photographie de ce qui se passe avec l'Église à l'époque. Pas du tout. On a un portrait de ce qui se passe avec probablement le missionnaire le plus important de l'époque, c'est vrai, mais c'est un échantillon que nous avons ici de ce que Dieu est en train de faire à travers l'Église, parce que à travers l'histoire, à travers les pères de l'Église, on a des échos d'autres champs missionnaires aussi qui ont parti à ce moment-là. Et ce que Luc est en train de nous faire, il est en train tout simplement de prendre une photo pour nous démontrer l'œuvre de l'Esprit dans une continuité. Jésus nous dit au début, Jésus avait dit aux apôtres, au début du livre des Actes, « Voici une puissance surviendra sur vous, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez » comme une prophétie, à la fois une directive, une prophétie, « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Et donc, ce que Luc est en train de faire, il est en train d'illustrer, il est en train de démontrer cette œuvre que l'Esprit est en train d'accomplir à travers l'Église, et plus précisément, parce que Paul a eu ce mandat d'aller vers les païens, plus précisément, on va suivre pour plusieurs chapitres l'apôtre Paul avec Barnabas dans son premier voyage, puis on va continuer avec Paul après, et on entre dans cette phase où l'Église s'engage dans cette grande mission. Je résumerai comme ça les quelques minutes qu'on va prendre dans la parole ce matin. Jésus-Christ a à cœur le salut des hommes. Et c'est pour ça qu'il a donné un mandat. Maintenant, il a envoyé son esprit. Alors, l'Esprit Saint suscite, met à part et envoie des gens remplis de l'Esprit pour annoncer la parole. Et essentiellement, ma question pour l'Église ce matin... Ma question pour chacun d'entre vous ce matin, quel est le rôle de l'Église? Quel est votre rôle? Quel est ton rôle dans cette histoire? Je résumerai, comme je vous ai dit, j'ai cherché à être créatif ce matin. Vous avez ça dans l'inséré dans vos notes. Je résumerai mes trois points en trois questions ce matin. Première question, évangéliser la terre. Un projet de leader d'Église ou un projet de Dieu? Et la question que j'ai en tête ici, c'est... Est-ce que c'est toujours les leaders d'Église qui se disent « Bon, mais il faut faire ça » puis essaient de craquer l'Église à embarquer là-dedans? Ou est-ce que vraiment c'est un projet divin, cette histoire-là? Deuxième question, quel est le rôle de l'Église dans tout ça? Et l'Église ici, j'entends l'Église locale. Je vais prendre l'Église d'Antioche, on a une Église locale, pour nous amener à nous poser la question à nous. Quel est le rôle d'une Église locale dans cette dans ce projet-là, si on répond que c'est un projet qui vient de l'Esprit de Dieu, qui est un projet de Dieu, et plus personnellement, quel est votre rôle, individuellement, comme personne? Parce qu'il y a une Église qui est derrière ce projet-là ici, et il y a une Église qui reste derrière aussi, il y a une partie de l'Église qui part. Quel est ton rôle, quel est ton appel dans tout ça? Si je fais juste résumer la situation qui se passe ici, bien, on a une église, l'église d'Antioche, qui est installée, qui est en train de s'organiser, d'accord? On est vraiment au début, et quand vous entendez parler de projet d'implantation d'église, pensez, on va prendre Rivière-du-Loup, parce qu'on en parle assez souvent, tout ça. Il y a quelques chrétiens qui sont là, puis qui commencent à s'organiser, puis ils disent, bon, OK, l'hiver va arriver, ça nous prend un local, on va se trouver un local, on va s'installer, et puis ils commencent à s'organiser un peu pour fonctionner comme église aussi. Alors, il y a des gens tranquillement qui viennent à connaître Jésus-Christ, puis ils veulent découvrir c'est quoi la vie chrétienne, et puis on commence à s'organiser. Fait que là, on va se rassembler, puis il va y avoir des temps d'enseignement, puis il y a des enfants qui viennent, on veut instruire les enfants, puis l'Église commence à s'organiser dans ça. Puis là, il y a des frères et sœurs qui ont des besoins, on veut répondre à leurs besoins, comment on fait pour les aider, est-ce qu'on a oublié quelqu'un, on veut prendre du temps en prière. L'Église s'organise et apprend à vivre ensemble. Puis là, les gens apprennent les rudiments de la vie chrétienne. Il y a quelqu'un qui garde certaines mauvaises habitudes, qui, oups, l'esprit lutte avec tel péché, puis on veut l'aider. Alors, on va faire de la formation disciple. On veut l'aider à découvrir c'est quoi marcher comme chrétien. C'est ça qu'on a ici avec Antioche. On a une église qui est en santé, une église qui va bien, une église qui est en train de se mettre en place. Une église qui a une belle équipe de leaders. Quand Luc nous dit, il y avait des leaders qui étaient là, et déjà dans le récit, quelques-uns d'entre eux se démarquent comme des hommes de qualité. Alors, on a une église qui est en train de s'organiser avec des leaders de qualité, et puis ça promet tout ça. Ça s'annonce bien tout ça. Et là, Luc nous dit que cette église-là décide de prendre certainement parmi les meilleures ressources de l'église, alors que l'église est encore jeune. Prendre parmi les meilleures ressources de l'Église, puis les envoyer partir, ceux-là. Par la foi, pas mal. Sûrement avec du soutien de la part de l'Église, mais ils s'en vont, puis ils s'en vont ailleurs. Puis ils vont partir sur une course qui me frappe lorsque je lis les Actes. Vous allez le voir dans les prochaines semaines, quand on va avancer dans les Actes, mais ils arrivent dans une ville, quelques conversions partent, s'en vont à une autre ville. Ça, c'est le contexte qu'on a ici. L'Église commence à s'organiser, puis paf, on envoie les meilleures ressources. Ces meilleures ressources-là s'en vont ailleurs pour pouvoir annoncer l'Évangile. Alors, je viens avec ma première question. Évangéliser la terre, est-ce que c'est un projet de leader d'Église ou est-ce que c'est un projet de Dieu? Moi, je crois que c'est une question qui est pertinente pour une Église comme la nôtre ici. Voyez-vous, depuis 2000 ans, les Églises, les chrétiens et les Églises investissent énormément d'énergie, énormément de temps, énormément d'argent, d'accord, à s'investir dans la mission. Depuis toujours, les chrétiens font ça. En fait, les moments où vous voyez, quand vous étudiez l'histoire de l'Église, que les églises ne le font pas, et si vous connaissez des églises qui s'investissent très peu dans la mission, vous savez déjà que c'est des églises malades. C'est des églises qui ont perdu le focus, qui ne sont pas là. Il y a des choses qui ne vont pas. Ce ne sera pas long, il va y avoir des crises dans l'Église, il va y avoir des conflits, l'Église va se diviser. Vous allez voir, ça va venir. Depuis toujours, les églises locales s'investissent dans la mission. Puis là, c'est gros. Laissez-moi dire des mots que vous ne voudriez pas. On n'aime pas ça quand on lit dans le journal des termes comme ça. D'accord? Depuis toujours, les chrétiens font la propagation de l'Évangile. Les chrétiens font du prosélytisme. C'est vrai? Les chrétiens arrivent à quelque part, puis ils s'en vont vers des gens, puis ils leur disent, écoute, je sais que tu crois dans des choses, je suis pas en train de te dire que tu es quelqu'un qui est nécessairement tout croche, puis, mais laisse-moi te dire que j'aimerais te faire connaître Dieu, puis je pense que tu connais pas vraiment Dieu si tu connais pas Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que tu as besoin de Christ, même si tu veux être réconcilié avec Dieu. Laisse-moi te dire que tu es une patate, puis j'aimerais ça te conduire à Jésus. Et puis toujours, les chrétiens font ça. C'est très mal perçu, vous savez. C'est vraiment mal perçu de l'extérieur. Tu sais, c'est quoi? Ils font du prosélytisme, c'est là. Ils ne sont pas capables de nous respecter. Depuis toujours, les chrétiens font ça. On s'en va, puis on dit aux gens, ben, je t'écoute, là, puis tu es dans l'erreur. J'aimerais ça t'apporter la vérité, en toute humilité. Est-ce que c'est un projet de leader d'Église? Vous savez, des Yannick, là, ils voudraient avoir une gang de monde qui sont là, tu sais, puis qui, en sortant, disent, ah, man, c'était bon ce matin, moi, j'aimerais ça être comme toi, tu sais, puis, ah, oui, puis là, les gars s'assoient ensemble, disent, on va se monter une patente, ça va être génial, puis il va y avoir une foule, puis ça nous prend une vision, puis. Parce qu'à quelque part, c'est facile d'avoir l'impression derrière tout ça que cette espèce de craquage-là constant pour la mission, on dit on veut s'investir, on veut mettre des sous là-dedans, on veut envoyer des gens, tout ça, c'est comme une espèce d'institution. Une espèce de religion qui ne peut pas vivre autrement sans faire son autopromotion. On va mourir si on ne grandit pas, donc il faut grandir. Fait que faisons du prosélytisme pour ne pas mourir. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est un projet qui vient de Dieu? Dans le passage qu'il y a ici, Luc nous dit que le Saint-Esprit est venu déranger le confort qui est en train de s'installer dans une église. Parce que vous avez la crème. Vous savez que ceux qu'on envoie, c'est toujours les meilleurs. Vous restez toujours avec les restants. Hein? C'est une fleur pour mon frère que je viens de faire. Mais voyez le Saint-Esprit, c'est ce que Luc nous dit. Le Saint-Esprit est venu les déranger dans le confort de cette église qui est en train d'apprendre enfin comment ça marche, cette affaire-là, la vie chrétienne. Puis en fait, si vous êtes avec nous depuis le début des Actes ou si vous connaissez assez bien le livre des Actes, c'est vraiment un mouvement dans tout le livre des Actes où Dieu vient déranger l'Église constamment. Ça peut prendre des persécutions, ça peut être juste par une directive de l'Esprit, mais constamment Dieu vient les déranger dans là où ils s'installent dans leur confort. Voyez-vous, Luc nous dit dans ce passage que la mission, c'est un projet qui est dans le cœur de Dieu. Qui n'est pas dans le cœur des dirigeants de l'Église, qui n'est pas dans le cœur de ceux qui voudraient juste voir l'œuvre prendre de l'expansion. C'est un projet qui est dans le cœur de Dieu. Parce que le christianisme, notre histoire à nous, c'est l'histoire du Fils de Dieu qui était dans son confort à lui, qui a quitté ça complètement pour venir vers nous. C'est ça l'histoire du christianisme. C'est un mouvement constant où on part d'une situation. Tout à l'heure, Mélodie parlait, elle dit, quand je reviens ici, elle l'a pas dit comme ça, là, elle a été gentille, là, mais elle dit, je vous trouve bien confortable. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle quitte ce confort-là. Le christianisme, c'est ça. C'est l'histoire de Christ qui est dans ce confort-là et qui vient comme serviteur, qui vient marcher vers nous, qui vient nous rejoindre, nous. Et c'est ce mouvement-là d'aller vers l'autre. Et ça ne s'arrête pas là parce que sa mission, ce n'était pas simplement d'aller vers l'autre, c'était d'aller pour mourir pour l'autre. C'est ça, non? C'est ce mouvement de partir de ce confort-là pour se rendre jusqu'à la croix, aller mourir pour l'autre, afin que l'autre puisse avoir la vie. Et donc, Christ a accompli quelque chose d'unique. Il est venu mourir sur cette croix afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés, réconciliés avec Dieu. Et cette œuvre-là est absolument unique. Mais dès qu'il la complète, dès qu'il complète cette œuvre, il dit, « OK, maintenant, est-ce que vous avez compris quelque chose? Je vais vous envoyer mon esprit et vous allez continuer le mouvement. Vous quittez votre confort et vous allez mourir pour l'autre afin qu'il ait la vie. » Et depuis 2000 ans, c'est ce que l'Église fait. Depuis 2000 ans, c'est ce que l'Église fait. Une église est implantée, une église commence à se structurer, on commence à mettre des ministères en place. Et si cette église-là est une église remplie de l'Esprit, l'Esprit va lui dire, tôt ou tard, « Je regarde la gang, là, puis celui-là, 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 les mettez à part, puis ils s'en vont. » Puis vous allez les supporter, puis vous allez prier pour eux. C'est une œuvre de Dieu, ça. Et donc, lorsque vous nous entendez parler des missionnaires, parler de la mission, puis c'est distant tout ça, puis ça a de l'air loin, puis ça semble être comme le département qu'une église devrait toujours avoir dans son budget à quelque part si elle veut avoir bonne conscience. Puis si c'est en train de grandir, on peut avoir encore plus bonne conscience. C'est pas ça du tout. C'est le cœur de la patente. C'est ça l'objectif. C'est d'aller vers l'autre, que ce soit localement, que ce soit à l'étranger. C'est de quitter notre confort pour aller mourir à nous-mêmes et donner la vie à quelqu'un d'autre en lui annonçant Christ avec tout ce que ça implique comme renoncement personnel. C'est le mouvement du christianisme constant. Et cette œuvre-là est une œuvre de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une œuvre humaine. Ce n'est pas des leaders qui se disent, il faut faire quelque chose parce qu'à un moment donné, on va tourner en rond. Puis quand on tourne en rond, ils commencent à chicaner. Puis là, on va avoir plein de problèmes là-dedans. Et c'est, vous comprenez que ça serait beaucoup plus simple de dire, regardez dans les Écritures, on va regarder ça puis on va apprendre comment être heureux. La Bible est là pour vous montrer comment réussir dans la vie puis être heureux. Moi, je pense qu'il y aurait plus de monde ici. C'est à ça que ça sert la Bible, c'est comment être heureux puis réussir dans la vie puis être confortant. Mais si on prêche le texte, si on prêche les Écritures fidèlement, ce message-là, c'est oui, tu vas être heureux en mourant à toi-même. Ah oui, on veut apprendre ensemble comment être heureux en s'oubliant soi-même. Et en fait, si vous n'êtes pas heureux dans votre vie chrétienne actuellement, 80% des chances sont que vous n'êtes pas en train de mourir à vous-même. 80%. Il y a des situations où on souffre et c'est une période où on doit souffrir parce que Dieu permet la souffrance. Mais lorsque la vie chrétienne commence à être comme « ça ne marche pas, je ne sais pas où je m'en vais », généralement, tu n'es plus là. Tu n'es plus en train de t'oublier toi-même, tu n'es plus en train de quitter ton confort pour aller mourir à toi-même, pour apporter la vie, l'évangile à quelqu'un d'autre. C'est un projet qui vient directement de Dieu. C'est un projet qui vient de l'Esprit Saint. C'est un projet qui consomme énormément d'énergie. Des fois, je parle avec des pasteurs ou je parle avec des gens ailleurs, puis ils me demandent combien il y a de gens à l'église. Ben, je ne sais pas. Peut-être avec les enfants, 300. On a peut-être environ 300. OK, combien il y a de monde sur le conseil? On est trois anciens. Il y a trois pasteurs pour vous occuper, c'est ça? Mais oui, mais c'est parce que le Saint-Esprit n'arrête pas de les envoyer dans la mission. Qu'on rame! C'est correct, c'est notre joie. C'est ça la vision. Alors ça consomme énormément d'énergie, énormément de temps. Cette semaine, j'avais toujours cet exemple concret avec l'église de Rivière-du-Loup. L'église ici investit depuis le début du projet 5 000 $ par année. C'est quoi, 35 000 peut-être qu'on a fait? Ça fait 7 ans, 8 ans? 35 000 $ à 40 000 $ qu'on investit là-bas. Ça prend... On est là, puis on veut les aider, puis on veut pourvoir, on veut que l'œuvre avance, on veut que l'œuvre s'implante. Ça, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. La semaine prochaine, Antonio va venir vous parler de ce qu'on fait avec eux. Mais voyez-vous, dans ce passage, clairement, c'est l'Esprit de Dieu qui intervient. C'est l'Esprit qui appelle, parce que l'Esprit de Christ est un esprit missionnaire. L'Esprit de Christ est un esprit missionnaire. C'est un esprit de consolation. C'est un esprit de réconfort. C'est un esprit de puissance. C'est un esprit missionnaire. Et donc, c'est l'Esprit qui vient et qui initie cela, parce qu'il est l'Esprit de Christ. Et donc, il poursuit cette œuvre-là et il va pousser l'Église dans cette direction à sortir de notre confort pour pouvoir aller de l'avant. Dans le passage ici, c'est l'Esprit qui appelle, c'est l'Esprit qui donne des dons, qui donne des hommes et des femmes à l'Église, et puis c'est l'Esprit qui envoie. Ça vient de Dieu. Et on n'a pas vraiment d'informations sur comment ça se passe, cette affaire-là. Il nous est dit dans le passage qu'il y avait des prophètes et qu'il y avait des docteurs. Alors, j'ai tendance à croire que c'est à travers la bouche d'un prophète que Dieu dit ces deux-là. Mais en même temps, Paul, dès sa conversion, ça avait été dit qu'il allait être consacré pour une œuvre particulière. Alors, est-ce que ça s'est passé dans leur cœur, premièrement? On ne sait pas exactement comment l'Esprit l'a fait. Est-ce que ça s'est fait pendant qu'ils étaient en train de servir, puis les gars les regardaient aller, puis ils voyaient que leur appel semblait être là parce que la passion allait toujours à ces âmes perdues? Et est-ce que c'est... On ne sait pas, on n'a pas vraiment cette information. Tout ce qui nous est dit, c'est que l'Esprit l'a dit à ces gens-là. Il leur a dit, mettez-les-moi à part pour le service. Maintenant, la deuxième question que je veux poser, c'est quel est le rôle de l'Église dans tout ça? Quel rôle une Église locale est appelée à jouer? Parce que ce qui me coûte, ce que je trouve difficile souvent lorsqu'on pense à la mission, je le sais parce que lorsque je parle avec les gens, je le sens en jasant avec vous. Si la vision n'est pas claire, on a l'impression, on a le sentiment que la mission, c'est l'affaire de 2-3 personnes qui eux autres ont été appelées et doivent partir. Mais j'aimerais qu'on puisse réaliser dans le passage ici que la mission n'existe pas sans les églises locales. L'Église est au cœur même de la mission. Alors, quel est le rôle de l'Église locale, par exemple ici avec Antioche, à l'intérieur de cette mission-là? Et je vous dirais, la première chose, le rôle de l'Église, c'est de servir Dieu rempli du Saint-Esprit. Par le simple fait qu'une grande majorité de chrétiens dans cette salle cherchent quotidiennement la face de Dieu pour dire, « Seigneur, je veux marcher une vie chrétienne intègre. Je ne veux pas attrister ton esprit dans ma vie et je veux laisser ton esprit me parler, me dire tout ce qu'il veut me dire. Par ce simple facteur-là, le Saint-Esprit peut commencer à nous conduire dans la mission. Et c'est clair dans ce cas-là que les leaders étaient remplis de l'Esprit, c'est clair qu'ils étaient en train de servir Dieu, mais c'est clair par l'histoire de l'église d'Antioche. L'église d'Antioche est une église en santé, c'est très clair dans le livre des Actes. Et donc la première chose, c'est que chacun d'entre vous, votre communion quotidienne avec Dieu est un facteur déterminant dans la mission. J'en ai vraiment la conviction, je vous le dis. Parce que la mission demande une clarté de vision pour l'œuvre de Dieu. La mission demande de voir clair où est-ce qu'on doit aller, parce que des sacrifices, ça prend une vision claire. Et quand on attriste l'esprit, quand on néglige l'esprit dans notre vie, il n'y a absolument rien de spirituel qui est clair. Tout ce qui est clair, c'est que ma vie chrétienne va tout croche. C'est la seule affaire qui est claire. Je ne pense qu'à moi parce que c'est n'importe quoi ma vie. Parce que je lutte avec des péchés, parce que je suis malheureux, parce que ça a des conséquences dans la vie des autres, parce que je me sens amorphe spirituellement. Et la vision n'est certainement pas claire. Tout ce qui est clair, c'est que ça ne marche pas cette affaire-là. Alors, où est-ce qu'on est par rapport à la mission? C'est, je m'en vais à l'église le dimanche matin. Il ne va pas me parler de mission un matin. Ma vie, c'est n'importe quoi. Je ne suis pas là, mon vieux. C'est comme, gars, j'arrive même pas à me débarrasser de certains péchés dans ma vie puis à avoir une vie familiale qui a de l'allure. Je ne suis pas là, tu comprends-tu? Ça ne m'intéresse pas, la mission. Voilà, c'est ça que je vous dis. Votre communion personnelle avec Dieu, votre quête quotidienne de marcher remplie du Saint-Esprit est un facteur déterminant dans le rôle que l'Église a à jouer pour la mission. L'Église a un rôle, c'est vraiment intéressant comment Dieu dirige dans ce passage. L'Église a le rôle de prier et de confirmer l'appel. Quand j'ai commencé à rêver d'aller dans le ministère pastoral, moi j'étais un petit précoce. Après trois mois de vie chrétienne, je m'en vais voir le pasteur Richard Roule, je dis, je vais prendre votre place. Fait que, je n'ai pas dit comme ça, là, mais c'est ça que ça voulait dire en gros. Puis là, il m'a dit, OK, Pompon, tu vas aller faire des études, tu vas aller chercher un métier, tout ça. Je suis en train de finir ma technique en éducation spécialisée, je vais avoir un métier. Non, regarde, pour l'université. Bon, finalement, j'étais prêt à aller étudier s'il voulait, tout ça, c'est beau. Mais il dit, OK, c'est correct, on va commencer. Et une des premières choses qu'il m'a dites, et c'est vraiment un guide pour moi parce que c'est clair pour moi, dans un passage comme celui-là, dans l'appel de Timothée, c'est clair que c'est un principe biblique. Il m'a dit, Yannick, c'est le Saint-Esprit qui sait si c'est ta place dans le ministère. Il va te parler de deux manières. Il va te parler par une conviction dans ton cœur et il va confirmer ton appel à travers l'Église locale. Parce que l'Église a l'Esprit de Dieu et elle a le discernement nécessaire pour voir si tu as les dons et si c'est ta place, si c'est ton appel. Et donc, lorsque je me suis lancé dans cette formation-là, j'ai pris une décision sur la base d'un « on verra si l'Église confirme ». L'Église a été patiente parce que deux mois après, il aurait dit « c'est vraiment pas ta place, mon homme ». En fait, des gens sont venus me le dire quelques années plus tard. On était sûr que tu faisais une gaffe, c'était pas ta place. Mais ils attendaient pour voir ce que l'Esprit allait confirmer ou non à travers l'Église. Et voyez-vous, c'est ce qui se passe ici. Si Dieu place sur ton cœur un fardeau, un désir, un appel, à travers l'Église, il va pouvoir confirmer cela. Il y a quelques moments dans l'histoire de l'Église avec des Hudson Taylor où on a des phénomènes, des individus qui sont à une époque où l'Église ne va pas vraiment bien et Dieu place un appel sur leur cœur et contre tous les conseils de l'Église, ils avancent et ça vient de Dieu. Ce n'est pas le modèle de la mission, vous comprenez? Souvent, on va les prendre comme modèles, ces gens-là. Ce sont des exceptions où Dieu vient brasser des choses dans l'Église. Mais quand l'Église est en santé, l'Église est là parce qu'elle a l'Esprit pour confirmer l'appel. Et c'est vraiment intéressant de voir cette dynamique dans le passage ici où le Saint-Esprit leur dit « Mettez-moi à part Barnabas et Paul » au verset 2 « pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Puis au verset 3 « Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains ». Voyez-vous, il y a vraiment une collaboration entre l'Esprit-Saint et l'Église. Et l'Église, une fois qu'elle sait qu'ils doivent être mis à part, continue à prier puis à jeûner. Je n'ai pas l'impression ici qu'ils étaient encore en train de dire « Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? » Mais en même temps, il y a ce moment de consécration. Et donc, l'Église participe à ce que Dieu est en train de dire à l'individu, à l'appel que Dieu place sur l'individu. Alexandre, dans le ministère à temps plein maintenant. C'est comme ça que ça s'est passé. Hugo, c'est comme ça que ça s'est passé. Les gars arrivent, puis soit quelqu'un les approche, puis leur dit, « T'as-tu pensé à aller dans le champ missionnaire? T'as-tu pensé à aller dans l'œuvre? » Ou soit que ça vient sur leur cœur. Puis on commence à discuter, puis on commence à dire, « Regarde, tu vas servir là, on va voir si Dieu confirme. » Ça prend pas 10 ans, cette affaire-là. Dernièrement, je parlais avec un jeune homme. Puis gros questionnement, tout ça, j'ai dit, « Donne-nous 3 ans. » Dans 3 ans, Saint-Esprit va l'avoir confirmé ou non. S'il dit non, ça sera peut-être 10 ans plus tard. Mais voyez-vous, l'Église participe ici à confirmer l'appel. Ça, c'est l'Église locale. L'Église, le rôle de l'Église, c'est de laisser aller les meilleures ressources. Ça, c'est le rôle de l'Église. Vous savez, quand vous voyez nos meilleures ressources partir pour aller aider une autre assemblée, puis vous avez de la tristesse dans votre cœur, je le comprends. Mon frère m'a dit qu'il partait pour Rivière-du-Loup. J'ai pleuré intérieurement pendant 1 an et demi. La première fois, je suis allé là-bas, je conduisais, puis je vivais comme une dépression. Je me suis dit, mais dans quel... Excusez-moi ceux qui viennent de là. Dans quel trou il est allé, ce gars-là? J'avançais. Moi, je connaissais la Côte-Nord, pas la Rive-Sud. Fait que j'avançais, puis je me disais, il n'y a pas de montagne ici. C'est planche, ça n'a pas de bon sens. Il va te déprimer. Toutes sortes de niaiseries. Je vivais un deuil dans mon cœur parce que mon frère qui rentrait enfin dans l'œuvre partait. Mais c'est ça le rôle de l'Église. C'est laisser partir les meilleures ressources, aller les meilleures ressources. Parce que là où elles vont aller, il n'y aura pas 300 bodés autour d'eux pour faire le travail. Ils s'en vont implanter. Dans le meilleur des cas, comme l'apôtre Paul, ils vont être 5, 6, 7. Meilleur des cas. Et c'est le rôle de l'Église de laisser partir les meilleures ressources. Est-ce qu'on a cette vision-là ici? Laisser aller les meilleures ressources pour l'œuvre. S'investir dans la formation des leaders. Du jour au lendemain, cette église-là est passée de 5 leaders solides à 3 leaders solides. Puis là, les gars ont commencé à dire, « On est débordés. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église s'investissait dans la formation des leaders. Constamment en train de former. Constamment en train de tirer par le haut. Puis l'idée, c'est pas... Parce qu'au quotidien, ça peut donner le feeling, ouais, mais c'est parce qu'il faut que la machine elle roule, tu sais. Fait que là, il y a un trou, il faut aller combler le trou, je vais aller combler le trou. C'est pas ça. C'est pas ça. Écoutez, presque tout le monde ici fait du bénévolat. On fait ça parce que c'est là que l'Esprit nous conduit. On fait ça parce que c'est un esprit missionnaire qui nous est donné. Et oui, on va aller chercher les gens, puis on va dire, viens-t'en, t'as des dons, t'as des dons. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, trouvait ça difficile d'être formé comme leader, puis la personne était bouleversée, elle pleurait. C'est pour ça que je veux pas faire ça, c'est parce que ça fait mal. Mais Dieu t'a donné des dons. C'est ton appel. C'est là que tu vas être heureux. Parce que Dieu t'a donné les dons, on les voit. Donc rentre dans ton appel. Et donc l'Église va s'investir dans la formation de leaders. Il a fallu qu'ils comblent ces trous-là. Parce que du jour au lendemain, ils ont perdu 2 de leurs meilleures ressources. Supportés dans la prière, supportés financièrement. Paul, l'apôtre Paul va dire, « Priez pour moi afin que j'aie du courage pour annoncer l'Évangile. » C'est la dernière personne sur la terre après Jésus qui avait besoin de courage, il me semble. Mais Paul avait besoin que les églises prient pour lui. Mélodie a besoin qu'on prie pour elle. Les Bascounans ont besoin qu'on prie pour eux. Hugo a besoin, Hélène ont besoin qu'on prie pour eux là-bas. Tous nos missionnaires ont besoin qu'on prie pour eux. Et ils ont besoin qu'on s'investisse financièrement. Notre rêve, c'est pas que l'Église de l'Espoir donne 10 % de ses offrandes à la mission. On veut juste pas vous faire peur. Fait qu'on y va tranquillement. Notre rêve est pas mal plus gros que ça. Parce que les églises qui m'inspirent sont encore pas mal plus généreuses que ça. Mais tranquillement. C'est ça qu'on veut faire. On veut s'investir financièrement dans la formation des ouvriers, après ça, en supportant la mission. Alors, quel est ton rôle dans tout ça? Quel est ton rôle personnel? Et je termine avec ça. Qu'est-ce qu'une personne dans l'Église qui est là puis qui dit, OK, c'est beau. Donc, Yannick me dit un matin qu'il fallait que j'augmente mes offrandes. Puis il m'a dit qu'il fallait que je prie puis que je fasse mon culte parce que je ne fais pas mon culte, c'est mauvais pour la mission. Ton rôle à toi, c'est de découvrir tes dons spirituels. Si tu es un enfant de Dieu, tu as des dons spirituels. Ton rôle à toi, c'est de les placer au service de Dieu, sérieusement. Si tu ne vois pas un appel particulier sur ta vie, c'est de les placer au service de Dieu. J'aimerais attirer votre attention sur un tout petit personnage ici, au verset 5. Marqué, ils avaient Jean pour aide. C'est vraiment intéressant. Il y a deux individus qui ont reçu un appel particulier. Puis ces deux individus-là vont partir avec Jean. Bon, puis Jean, il avait des croûtes à manger, fait qu'il va les laisser tomber, ce ne sera pas tellement long. Mais quand même, allez un petit peu plus loin dans le passage, au verset 13. Paul et ses compagnons s'étant embarqués pour Paphos se rendirent à Perge et en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Jean se retire, puis Luc nous dit Paul et ses compagnons. Il y avait une équipe avec eux. Alors, ton rôle à toi, personnellement, c'est de servir selon tes dons. D'être là pour servir dans l'Église, pour t'appliquer à servir, parce que constamment dans les Écritures, on voit que Dieu appelle ceux qui servent. Dieu appelle ceux qui sont dans l'action. Il y a quelques exceptions où Dieu s'en va chercher quelqu'un qui a juste comme pas le goût d'être là, puis ça se peut qu'il fasse avaler par un poisson s'il est trop rebelle. De temps en temps, comprenez? Mais la règle générale, c'est que Dieu va prendre des gens qui servent, les dons vont émerger, les dons vont se manifester à travers le service. L'appel va commencer à brûler dans le cœur. Ce matin, je vous donne des exemples concrets. J'en ai un autre devant moi, c'est Danny. Danny Gosselin vient nous voir il y a quelques années. Tu te rappelles, tu sais quand? Première fois, tu nous dis, les gars, j'ai le goût de bouger. 5-6, il y a 5-6 ans, Danny nous dit, les gars, ça brûle, je veux faire plus que ça pour le Seigneur. Je ne sais pas où je m'en vais. Fait que là, nous, on regarde les besoins et tout ça, puis on dit... Il y a vraiment une super épouse pour pouvoir mettre une perruque un jour en avant. Puis c'est vrai, on n'allait pas jusque-là, mais dans notre tête, c'était Rachel s'impliquer avec les enfants. On a vraiment un besoin au niveau de l'intendance. Ça serait super. Danny, je sais pas. C'est ça? C'est ça, je suis très franc avec vous. Danny, un cœur de serviteur, est en train de servir, vous servez. Il dit, les gars, je sais pas si vous plantez, mais c'est votre choix, je vais y aller. Je vais y aller. Commence à servir, et dans le service, Dieu fait naître ce désir dans son cœur. Et lorsque Danny nous parle des enfants, de sa vision pour la famille, que les parents doivent s'investir dans la famille, ça vient de l'Esprit-Saint, ce qui sort de sa bouche. Parce que ce fardeau-là vient de l'Esprit sur son cœur. Alors, il accepte de servir là. Puis là, oups, il y a des réaménagements qu'on doit faire dans l'Église, on a besoin d'aide. Il dit, Danny... Qu'est-ce que tu dirais d'entrer dans le ministère à temps plein comme en devenant mon adjoint? L'année, il dit, OK, c'est quoi la description de tâche? Mais j'ai dit, regarde, ça, c'est ma table de travail. Puis quand j'en rajoute, puis ça tombe sur le côté, c'est toi qui attrapes tout. C'est comme ça, c'est vraiment, c'est comme ça que je te l'ai dit. Tu attrapes tout ce qui tombe, c'est ta job. Après ça, on s'ajustera en chemin. Hein, si vous connaissez Danny, c'est pas la première qualité qui sort de lui de dire, OK, on va prendre tout ça. Là, puis, ce qu'il avait, c'est, je veux servir le Seigneur. Puis encore à ce jour, je prie avec Danny, puis je sais que des fois, il est là, puis il dit, il va-tu me lâcher? C'est trop, Yannick, tu me connais pas, là, tu réalises pas. Mais il est là, puis il dit, Seigneur, je te remercie, parce que Yannick me pousse à grandir. Il est tellement poli, hein? Tellement poli, hein? Il pourrait le formuler de tellement d'autres manières. Mourir à soi-même pour servir. Et Dieu voulant, mais Danny commence à étudier en janvier. Préparation pour le ministère. Parce que Dieu place sur son cœur une aspiration pour servir. Alors, c'est quoi ton rôle à toi? Servir selon tes dons spirituels, te consacrer au service de Dieu, être disponible à ce que Dieu veut faire dans ta vie, avoir une vision claire de cet esprit missionnaire qui a été donné à l'Église, afin que tu entres dans cette vision par la prière, par le service, par une vision qui dit, Seigneur, tu vas venir chercher les meilleures ressources ici. On reste épris avec les restants. C'est correct, Seigneur. J'irai m'impliquer pour aller aider, Seigneur. T'investir financièrement dans cette mission-là, joyeusement. Et être ouvert à l'appel que Dieu pourrait placer sur ta vie. Parce qu'au nombre qu'on est ici, avec la mission qui est placée devant nous, il y en a d'autres qui sont appelés, je peux vous le dire. Il y en a qu'on connaît, il y en a qui se connaissent, il y en a plusieurs qu'on ne sait pas, mais Dieu va en appeler d'autres encore. Alors ça veut dire, et je termine avec ça, commencez à répondre à cet esprit missionnaire là où vous êtes. Et c'est pour ça que cette année, on met un accent sur la prière et sur l'évangélisation, parce que être missionnaire, ça commence chez moi, avec mes voisins, avec mes collègues de travail, dans mon entourage, en m'impliquant dans des petits groupes en mission avec Bouffe pour tous, tout ça, avec une vision claire qu'on fait ça pour aider les gens matériellement, mais parce qu'on veut les aider spirituellement et développer un cœur missionnaire pour ces gens-là. Et donc, déjà, avoir ce cœur qui s'ouvre pour quitter votre confort, aller donner la vie en annonçant l'Évangile de Jésus-Christ. Ce projet-là, frères et sœurs, c'est pas une patente que les leaders veulent faire, dont les leaders veulent faire la promotion. C'est l'Esprit de Dieu qui le place. Et chaque fois que vous allez rencontrer une église en santé, ça va être une église qui va être animée par un esprit missionnaire, qui va avoir à cœur l'avancement de la mission. L'Église a un rôle fondamental à jouer. Ça. Elle le joue depuis 2000 ans, elle va continuer à le faire. Et de plus en plus ici, l'Église de l'Espoir entre dans cette vision-là. Et chacun des individus ont un rôle à jouer, chacune des personnes. En marchant rempli de l'Esprit, avec une vision claire pour supporter cette œuvre-là et qui sait, être disponible pour rentrer dans cette œuvre-là. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, je veux te remercier pour ta parole parce que ta parole est claire. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole, parce que ta parole nous met au défi de nous oublier nous-mêmes et de passer à l'action et de s'investir dans la mission, Seigneur. Seigneur, je te prie de parler à nos cœurs. Je te prie, Seigneur, de nous aider à nous concentrer sur ton œuvre. Père, je te prie de soulever dans l'Église d'autres appels, de nous remplir de ton esprit afin que ce soit joyeusement que nous nous sacrifions pour cette œuvre, Seigneur. Je te prie d'équiper des leaders afin que la relève soit présente. Je te prie de susciter des appels pastoraux, des appels missionnaires. Donne-nous des hommes et des femmes qui ont un fardeau, Seigneur, pour la mission. Et donne-nous à cœur de prendre ici et maintenant la mission que tu nous as confiée, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen. Juste vous